10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans LMNSP sur Transistor. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission d'actualité internationale. Bonjour Antoine.
Bonjour Fabien, bonjour à vous fidèles auditeurs. Avant de commencer, nous tenions à vous remercier car Transistor a battu ce mois-ci ses records d'audience. Plus de 5500 émissions ont été écoutées ce mois-ci. Merci à vous.
Et comme nous ne nous lassons pas de vous séduire, nous vous proposons des nouveautés cette semaine dans LMNSP. À la place de la revue de presse, vous retrouverez deux portraits d'hommes qui font, ont fait ou feront l'actualité de ce monde qui jamais ne vous suffit.
Allez, c'est parti pour les portraits de LMNSP. Le premier portrait de la semaine, Fabien, est celui d'un homme peu connu, mais qui a un rôle non négligeable en Europe puisqu'il s'agit de celui qui est président du Conseil européen depuis novembre 2009, Herman Van Rompuy.
En effet, qui est Herman Van Rompuy? En bref, d'abord, Herman Van Rompuy a 64 ans, cet homme né en Belgique, d'origine flamande, est diplômé de sciences économiques, il a été premier ministre de son pays en 2008-2009, et il est membre du Parti chrétien-démocrate belge, plutôt conservateur.
Mais Fabien, comment a-t-il été choisi pour présider le Conseil européen, alors que personne ne le connaissait, et que beaucoup de monde ne le connaît toujours pas d'ailleurs?
Alors tout d'abord, si tu veux bien Antoine, je vais préciser ce que c'est le président du Conseil européen. Il s'agit de l'homme ou de la femme qui préside la réunion des exécutifs des pays membres, réunion qui se tient au moins 4 fois par an. Le but de ce président est d'être une voix unique pour l'Union européenne, afin d'éviter cette présidence tournante qui, avons-le, avait pour effet de faire perdre en lisibilité l'Union européenne face aux autres pays du monde. Je vous propose d'abord d'écouter Gordon Brown qui annonce la nomination de ce premier président du Conseil européen.
He is well known as a consensus builder between members of his five-party governing coalition. He's brought a period of political stability to his country after months of uncertainty. He has a reputation for integrity and resolve.
Peut-on faire plus clair ? Herman Van Rompuy a été choisi pour être un homme de compromis à la tête de l'Europe, d'autant plus qu'il avait l'avantage de ne pas faire trop d'ombre aux autres dirigeants européens, ce qui aurait pu être le cas avec la présidence par exemple de Tony Blair, haute pressentie en 2009. Homme de compromis, Van Rompuy a prouvé qu'il était capable de l'être alors qu'il était Premier ministre de la Belgique. On sait les difficultés qu'a depuis la Belgique de se doter d'un gouvernement. Celui qui a été surnommé « l'horloger des conflits impossibles » a en effet eu pour mérite de souvent concilier les pays de l'Union européenne depuis le début de sa présidence.
Et pour être concret, Fabien, comment est-ce qu'il a géré les crises récentes, par exemple la Libye, qui a divisé les Européens?
Oui, tout à fait Antoine, il l'a plutôt pas mal géré. Je vous propose de l'écouter devant le Parlement européen à propos du dossier libyen.
Sur la Libye, on peut avoir beaucoup de critiques. Mais sans l'Europe, on aurait vécu un bain de sang, en Libye. Et sans l'Europe, rien ne se serait fait au niveau mondial, au niveau des Nations Unies. Après toutes les critiques qu'on a émises, je crois qu'on a droit aussi à cette vérité.
On entend bien là un président du Conseil européen qui essaie de s'affirmer, réclamant une vérité sur l'action de l'Europe et qui revendique la place de l'Union européenne dans le cercle des dirigeants du monde. Tel était en effet le défi de sa fonction, faire entendre une voix européenne dans le monde. Et sur un dossier comme la Libye, ce n'était guère gagné. Français et Anglais portaient un projet qui n'était pas pour plaire à une Angela Merkel en difficulté d'un point de vue de politique intérieure. Van Rompuy a peut-être réussi à être l'homme qui assure une voix à l'Europe, mais reste qu'il a plus la fonction d'un porte-parole que d'un président et d'un modérateur entre les différents pays. Ses discours sur la crise dans les PIGS, Portugal, Espagne, Irlande, Grèce, fut bien moins entendu et répercuté que ceux de Angela Merkel, Nicolas Sarkozy ou encore de Dominique Strauss-Kahn.
DSK, dont certains disent qu'il pourrait revenir dans les institutions européennes s'il n'est pas candidat à la présidentielle française.
Oui Antoine, et c'est peut-être le signe de ce qui manque, de ce manque d'incarnation de l'Europe. Jean-Claude Trichet, Herman Van Rompuy, Catherine Ashton, les trois grands noms de l'Europe sont finalement des gens très très peu connus par les Européens eux-mêmes. Van Rompuy d'ailleurs aura le droit de briguer un autre mandat à l'issue du sien à l'été 2012, mais sans même qu'il se soit prononcé, les noms pour lui succéder fusent déjà, l'enterrant peut-être un peu vite, car le compromis sera peut-être d'élire à nouveau l'homme des compromis, précisément.
Et quels sont les noms évoqués pour lui succéder, Fabien ?
Certains aimeraient bien voir Tony Blair revenir dans les institutions européennes, mais celui qui a le plus surpris ces derniers temps, pour s'être déclaré plus ou moins intéressé par le poste, vit actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. Non, Antoine, il ne s'agit pas de DSK, mais bien d'Arnold Schwarzenegger. L'actuel gouverneur de Californie, autrichien, ne peut pas prétendre à la Maison-Blanche et envisagerait de revenir en Europe. Un proche qui l'accompagne dans son séjour actuel en Europe a déclaré à son propos « Dans les années à venir, l'UE va se chercher un président qui ait l'étoffe d'un grand président, quelqu'un qui puisse rassembler l'Europe. » À propos donc de Schwarzenegger. Assistera-t-on donc alors à un match Terminator versus Herman Van Rompuy en 2012 ? Affaire à suivre. Et on passe maintenant, Antoine, au second portrait de LMNSP. Nous allons vous parler d'un homme qui est en train de se faire un prénom, puisqu'il s'agit de Raúl Castro.
Oui, Fabien, Raúl Castro, frère de Fidel Castro, vient de prendre la tête du Parti communiste cubain mardi 19 avril dernier, après avoir accédé le 24 janvier 2008 au poste de chef de l'État après que son frère a dû se retirer de la vie politique pour des raisons de santé. Il avait déjà assuré le remplacement de ce dernier au cours des deux années précédentes. C'est donc à ce moment-là, en 2006, que le monde découvrait cet homme resté dans l'ombre de son frère depuis le début du régime castriste en 1959, Raoul occupant depuis cette date le poste de ministre de la Défense. Mais il a fallu attendre ces derniers jours pour que son ascension au sommet du pouvoir soit complète. LMNSP vous propose donc de revenir sur ce personnage complexe et ambigu, cet homme de pouvoir plus que de discours, ce pragmatique plus que dogmatique.
Alors Antoine, pour commencer, peux-tu nous dire quel a été le parcours de ce Raúl Castro ? A-t-il été mêlé au pouvoir dès les débuts ou bien est-ce un pion de son frère Fidel pour continuer de régner malgré tout ?
Raúl Modesto Castro Rus est né le 3 juin 1931. Élève moyen, timide et effacé, il est scolarisé dans les collèges jésuites à Santiago, puis à La Havane. Et après un cursus universitaire semé d'échecs, il entreprend à 22 ans le voyage de sa vie dans l'Europe de l'Est sous domination soviétique. C'est à la suite de cela qu'il adhère aux Jeunesses communistes. Et avec le groupe de jeunes militants créé par son frère Fidel, il attaque une caserne dans le but de renverser la dictature de Batista. Emprisonné durant 22 mois puis gracié avec son frère, il s'installe ensuite au Mexique et il y fait des rencontres déterminantes, dont celle avec Ernesto de Guevara, plus connu évidemment sous le nom de Che Guevara. Ensemble, ils tentent un coup d'état contre le dictateur cubain Fulgencio Batista, mais c'est un piètre échec. Survivant, ils organisent une guérilla dans les montagnes et en 1959 arrivent finalement à prendre le pouvoir.
Mais avec ce parcours que tu viens de nous décrire, j'imagine bien qu'il est devenu vite un des piliers du régime castriste s'installant à Cuba.
En effet, Fabien. Raoul, bien que dans l'ombre de son frère, devient ministre de la Défense, poste qu'il occupera jusqu'en 2006. Mais bien comme de l'ombre, son pouvoir est en réalité considérable. C'est lui qui infléchit la diplomatie cubaine pour se rapprocher de l'URSS dans les années 70. Et dans les années 80, il est procureur au procès Arnaldo Ochoa, compagnon de route des frères Castro, général de l'armée cubaine, mais accusé de corruption et condamné à mort. Un procès qu'ils inscrivaient dans une logique d'élimination du pouvoir d'un allié trop gênant. À partir des années 1990 et la crise économique sans précédent qui touche Cuba suite à la chute de son principal allié, l'URSS, il affiche un grand pragmatisme tout en manœuvrant habilement pour augmenter son pouvoir. Il agrandit le pouvoir de l'armée, qu'il dirige, au point que celle-ci détient à l'heure actuelle 60% de l'économie cubaine et il milite pour une ouverture de l'économie. C'est donc quelqu'un qui a toujours considérablement pesé sur les décisions de son pays. Et aujourd'hui, grâce à l'armée, il a un pouvoir encore plus étendu que son frère.
Finalement, donc Antoine, comment le décririons-nous, cet homme, un conservateur ou bien un homme pragmatique de 80 ans qui va apporter du changement à Cuba ?
Eh bien, c'est assez difficile à dire. Il est clair qu'il a affirmé certaines volontés de changement. Il a ouvert davantage le pays au tourisme, principal revenu de l'île, et assoupli les restrictions sur les voyages des citoyens en dehors du pays. Il a légèrement ouvert l'accès à Internet, comme tu le rappelais toi-même il y a quelques temps, en ouvrant deux cybercafés, par exemple à La Havane. Concernant l'agriculture, il a donné quelques terres en jachère à des petits exploitants et il a autorisé l'achat de lecteurs DVD, d'ordinateurs et de scooters, ainsi que l'accès aux hôtels, ce qui était avant réservé uniquement aux touristes. Mais la réforme la plus symbolique reste la fin de l'égalitarisme ou plafond salarial afin de booster l'économie. Sans l'assumer complètement, sous Raúl Castro, Cuba a amorcé un processus pour entrer dans une économie de marché.
Donc, d'après ce que tu nous dis, il incarne plutôt un certain changement pour l'île, avec plus de liberté pour les populations notamment.
Eh bien, c'est là que c'est complexe, parce que finalement, pas vraiment. Car toutes ces mesures que je viens d'évoquer sont très symboliques. Pour aller sur Internet, il faut avoir un ordinateur, et c'est un véritable luxe pour les Cubains. De même pour les lecteurs DVD et autres scooters. Et pour les voyages, c'est presque impossible. Il faut, pour cela, une lettre d'invitation depuis un pays étranger. Elle doit être accompagnée de $140. Il faut se faire ensuite un passeport pour $50 de frais d'établissement. Et enfin, demander une carte blanche qui permet de sortir du pays contre $150, somme que les Cubains moyens ne peuvent absolument pas réunir. Mais c'est vrai qu'il essaie d'incarner un certain changement. Il a récemment libéré une centaine d'opposants politiques. Et surtout, il s'est dit favorable à une alternance et à un renouvellement en politique. Écoutez-le.
Hemos arrivado a la conclusión que resulta recomendable limitar.
Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était recommandable de limiter à un maximum de 2 périodes consécutives de 5 ans la durée des mandats politiques fondamentaux. Aujourd'hui, nous devons assumer les conséquences de n'avoir aucun arrière-ban de remplaçants suffisamment préparés, qui ont assez d'expérience et de maturité pour prendre les rênes du parti, de l'État et du gouvernement.
Et voilà ce qu'a lancé le président devant les 1000 délégués du congrès du Parti communiste cubain, le premier depuis 1997. À l'occasion de ce congrès, qui s'est tenu du 16 au 19 avril, et qui a fait de lui le leader officiel du Parti communiste cubain, dont les orientations confirment le virage politique imposé par Raúl Castro, il a aussi déclaré qu'il fallait laisser de côté le formalisme, l'immobilisme et le dogmatisme. Mais il semble quand même extrêmement difficile d'imaginer Raúl Castro, frère du leader et au pouvoir depuis 1959, comme l'incarnation du changement et du renouvellement politique. Raúl Castro essaie peut-être de temporiser. Mais toujours est-il que cet homme demeure mystérieux, homme du changement pour Cuba, difficile d'y croire. Homme de la continuité, assurément, oui et non. La période Raúl Castro équivaut à une perestroïka sans glasnost, a commenté le philosophe cubain Alexis Jardines, c'est-à-dire une restructuration de l'économie sans transparence ni ouverture politique. C'est sans doute ce qui définit le mieux l'exercice du pouvoir, selon Raúl Castro.
Eh bien, merci Antoine pour ces éclaircissements. Et on passe, comme chaque semaine, nos palmarès de la semaine. Et on commence toujours donc par le chiffre de la semaine.
Chiffre de la semaine, 327 millions. C'est le nombre de clichés photographiques que va susciter le mariage du prince William à Londres, selon une étude réalisée par Nikon et publiée le 18 avril. Et oui, LMNSP vous informe qu'il existe des études pour calculer ce genre de choses. Mettons que la fête dure 24 heures, cela fait un peu moins de 14 millions de photographies par heure, soit 230 000 photos par minute. On a du mal à imaginer comment c'est possible. Tout comme apparaît hautement probable la citation que tu vas nous présenter, Fabien.
Improbable en effet, mais finalement, de par son auteur, peut-on encore s'en étonner? On la doit en effet à un personnage dont nous vous avons parlé il y a peu, le président du conseil charismatique italien Silvio Berlusconi, dont les frasques ne cessent d'occuper les articles des journaux européens. Il a déclaré devant ses partisans la semaine passée, je cite, « En chacun de nous, il y a 25% de part d'homosexualité. C'est mon cas aussi, sauf qu'après un examen attentif, j'ai découvert que la mienne était lesbienne. »
Et décidément, Berlusconi cumule vraiment tous les postes. Président du conseil, patron de chaînes de télé et d'autres entreprises, et désormais sexologue. Allez, on termine Fabien par l'actu insolite de la semaine.
Oui, nous savons tous que le monde ne vous suffit pas, mais bon, si jamais un jour vous souhaitez passer un petit week-end à la tête d'un pays pour vous détendre, un site américain de location est fait pour vous. Airbnb vous propose de louer l'espace d'un week-end le Liechtenstein. Pour 2 nuits, vous aurez en votre possession les 11 villages qui composent la principauté, après que les clés officielles vous auront été remises au Parlement national en grande pompe. Et le tout, s'il vous plaît, pour la modique somme de 48 000 euros.
Voilà une bonne idée pour vos vacances.
Eh bien, cette émission s'achève. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous dit encore un grand merci.
Merci à tous, oui. Nous vous encourageons aussi à écouter Transversar dans l'émission de cette semaine. Célia et Nina vous proposent, entre autres, un micro-trottoir sur le thème de la culture.
Et la semaine prochaine, vous retrouverez LMNSP, bien sûr, avec un retour remarqué derrière le micro, puisque Thibaut sera là pour vous proposer une chronique.
Et d'ici là, n'oubliez jamais que le monde ne suffit pas.